Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour débriefer l'actu de la petite balle jaune en compagnie de mon acolyte, le consultant de choc et de charme, bien sûr, Arnaud Di Pasquale. Bonjour, Mister.
Salut Seb, salut Max.
À côté cette semaine, un journaliste de la rédaction qui n'a pas raté une miette de ce qui s'est passé durant la semaine durant Rolex Paris Master, Maxime Baptiste est là, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, j'espère que tout va bien. Vous êtes prêts à revenir sur ce 97e trophée ATP décroché à Paris par Novak Djokovic qui continue sa moisson à 36 ans. Alors, rien ne l'atteint en ce moment. Hein. À travers la stat de notre partenaire Josette Matt, nous reviendrons sur une domination pas prête de s'arrêter qui lui permet même de viser un record que l'on pensait encore inatteignable. Notre débat de la semaine portera sur la rumeur qui court depuis plusieurs semaines. Faut-il déménager le tournoi parisien vers un autre lieu que l'Accor Arena? Et enfin, pour terminer, nous nous pencherons sur le Masters. Alors, les filles viennent d'en découdre à Cancun, au Mexique. Les garçons vont s'y mettre dès dimanche prochain à Turin, en Italie. Nous ferons le point sur cette compétition à suivre sur les antennes et applications Eurosport. Je rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter et nous laisser des messages, ça fait toujours plaisir. Même les questions les plus ardues, hein, Arnaud sera ravi d'y répondre personnellement de sa belle plume. Je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. Alors vous l'avez sans doute vécu en direct sur Eurosport, Novak Djokovic a remporté le Rolex Paris Masters dimanche face à Grigor Dimitrov en finale. Un match qui n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses en termes de jeu, mais qui a sacré pour la 97e fois sur le circuit ATP le Serbe, plus frais que le Bulgare, plus résistant que la maladie qui l'a accompagné toute la semaine, plus fort que tout en somme, hein, Arnaud.
Alors plus frais, je ne sais pas, mais plus résistant certainement, plus costaud mentalement aussi. En fait, c'est là où il nous bluffe. Alors, on aurait bien aimé avec Maxime parler un petit peu de Dimitrov parce qu'il nous a quand même bluffé aussi. On est super content de le voir rejouer à son meilleur niveau.
C'est vrai.
Voilà. Et c'est génial parce qu'au-delà de son élégance, c'est un super joueur qui varie énormément. Et est-ce qu'après, on imaginait qu'il causerait des problèmes à Djoko en finale? C'est pas sûr. Moi, on s'attendait quand même. Et puis, Djoko, en fait, sa grande force, c'est quand il passe ses premiers tours où il en bave, comme il en a bavé là, lors du Rolex Paris Masters, il a tendance à monter en puissance. C'est pas nouveau. Je ne sais pas si c'était une gastro, une intoxication alimentaire. En tout cas, il était vraiment pas bien. Il s'est battu, il s'en est sorti. C'est une espèce de classique chez Djoko. Mais en même temps, c'est humain et c'est normal. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il a toujours un problème. Je suis en train de dire que c'est normal, quand on joue autant, d'avoir des petits soucis physique, et en revanche sa grande force c'est de réussir à tenir, à s'en sortir, à s'accrocher. Après il est tellement, enfin moi je crois qu'il est tellement plus fort que la plupart des autres joueurs, tout simplement.
C'est ça.
On bat pas autant de records sans être plus fort, point. C'est-à-dire qu'à un moment il a réponse à tout, c'est le plus grand relanceur au monde,
c'est peut-être sûr.
de tous les temps
je pense.
La balle revient constamment. C'est-à-dire contre les plus grands serveurs aussi. Il les rend fous, il les fait dérailler. Et quand elle revient pas dans le carré de service. C'est-à-dire qu'il arrive en plus à doser en fait son retour, même sur des services à plus de 200 km/h, et ça très régulièrement. Cette façon de faire jouer constamment, de tenir sa ligne, de couvrir le terrain, de jouer juste, de toucher toutes les zones, en coup droit comme en revers. Il est pas maladroit à la volée. Et on parle pas de son service, mais son service est très performant quand il en a besoin. Donc en fait, il y a un moment où, vous savez quoi, on a beau se dire, mais pourquoi? Mais parce qu'il est plus fort, parce qu'il est meilleur dans tous les secteurs. En fait, c'est aussi simple que ça. Et même si ce n'est pas le jeu le plus spectaculaire, parce que c'est en fait de ça dont il s'agit, je ne sais pas, en ce moment, on a parlé ces dernières semaines de Shelton, parce que sur le terrain, c'est explosif, c'est génial, c'est jeune, c'est frais, c'est tout ce qu'on veut. À la fin, y a, je, c'est, la différence, c'est le nombre de victoires. La différence, c'est le nombre de victoires en Grand Chelem, en Masters 1000. Bientôt, au Masters, s'il bat le record absolu, parce qu'il va vouloir, c'est ce qu'il a dit, tous les battre, ces records. Et là, oui, sur Rolex Paris Masters, il était, c'est vrai, très mal embarqué. Très mal embarqué. Alors, certains diront, oui, mais ses adversaires, à certains moments, n'arrivent pas à enfoncer le clou. Alors, pourquoi il n'y en a aucun qui arrive à enfoncer le clou? Non, mais elle est
Ah,
là, parce
non,
que
c'est
c'est
une vraie
plus fort.
question. C'est une vraie
Mais
question.
non,
C'est dans la
mais
tête que ça se joue,
pourquoi?
vous pensez?
Mais non, mais c'est pas que dans la tête, c'est parce qu'en face, en fait, vous avez un monstre et qu'en fait, vous devez jouer à la perfection tout le temps. Vous n'avez pas le
C'est
droit à
vrai.
la moindre erreur. Et ils sont très peu à proposer ça. Ils sont très peu à vous imposer ça.
Oui.
Il y en a très, très peu. Voilà.
Et il a
C'est
éteint quand
tout.
même l'un des joueurs qui a brillé sur cette surface parisienne, c'est Grigor Dimitrov. Il nous a offert des matchs fantastiques. Je parle de Medvedev, par exemple, mais Grigor Dimitrov, il a été complètement éteint. Alors, il a quand même perdu pour la 10e fois de suite face à Djokovic. Et Oui, c'est ça aussi.
ça pèse, hein, Maxime.
Ça pèse mentalement. Je pense que Dimitrov a raté sa finale. Et quand il nous dit, après son match, que ses pleurs, c'était des pleurs de joie, je le crois à moitié. Je crois que c'est des pleurs de joie parce que, en effet, il a raison. Il ne se voyait sûrement pas être en finale de ce Rolex Paris Masters. Il ne se voyait pas finir la saison comme il l'a fini. Il a vécu, des périodes très difficiles et c'est très appréciable pour lui de revenir à ce niveau, de battre un type comme Medvedev de la façon dont il l'a battu, c'est-à-dire à sa 7e balle de match, en voyant Medvedev revenir dans le troisième set et en tenant mentalement pour le battre. Pareil contre Tsitsipas, un match qu'il maîtrisait, qu'il aurait pu gagner en 2 sets. Il voit son adversaire revenir et il tient dans la tête. Et ça, c'est un peu nouveau chez Dimitrov, qui a longtemps été faillible sur le plan mental. Mais ça m'empêchera pas de penser que avant ce match contre Djokovic, je pense que Dimitrov se disait qu'il avait les armes pour faire ce qu'il n'avait plus fait depuis 10 ans, c'est-à-dire battre Djokovic. Sa dernière victoire et sa seule victoire sur Djokovic, c'était à Madrid en 2013. Donc ça remontait, mais en même temps leur dernière confrontation remontait un petit peu aussi. Il s'était pas fait battre il y a 3 semaines par Djokovic, par exemple. Donc je pense qu'il se disait qu'il pouvait faire quelque chose. Or son début de match a montré qu'il était très tendu par l'événement. Son coup droit l'a totalement lâché. Il a fait 5-6 fautes directes dès les 2-3 premiers jeux en coup droit, alors que c'est son arme principale quand même, avec son slice de revers. Donc voilà, je pense qu'il était très tendu. Et je pense que le poids de cet ascendant psychologique de Djokovic sur lui a pesé beaucoup dans cette finale. Et c'est pour ça qu'il l'a perdu. Maintenant, pour revenir sur Djokovic, c'est un monstre, c'est un robot.
Alors, justement, le temps ne semble pas avoir d'effet en fait sur lui. C'est
Ah
la stat
oui.
de notre partenaire JeuxCetteMat de la semaine. Le Serbe a passé 2h19 en moyenne par match pour remporter le Rolex Paris Masters, donc hors Grand Chelem évidemment. Il n'a connu qu'un seul tournoi plus long avant de gagner, c'était Dubaï en 2010, avec 2h22 de moyenne par match. Et encore plus fort, en temps cumulé, il a dépassé les 11h30, ce qui parmi les tournois se jouant en 2-7 gagnants, c'est le troisième événement où il a dû s'employer le plus avant de s'imposer. Alors les autres, c'était Cincinnati en 2018, avec plus de 12 heures, et donc Dubaï en 2010. Et là, à 36 ans, et ben on a l'impression qu'il reste quand même insubmersible.
Oui, c'est ça qui est le plus surprenant, en fait, je trouve. C'est sa capacité à récupérer de match en match. Et en fait, sa capacité à concentrer son énergie, en fait, sur les moments les plus chauds. Moi, ce qui m'a subjugué, Arnaud parlait de la qualité de retour. Et à juste titre, contre Rublev, il est quand même mal embarqué. En demi-finale, il est mené 1-7-0, il souffre dans le deuxième set, il arrive dans le tie-break. Je crois qu'il y a 3-3 ou 4-3 pour lui. Service Rublev. Et là, il envoie un retour croisé de coup droit. Et c'est un missile, un truc supersonique, un truc au retour qu'il avait fait contre Federer à l'US
Voilà,
Open
j'allais dire, ça
2010.
rappelle d'autres coups aussi où justement là, la bascule, on la voit
Incroyable.
clairement et on sait que ça a changé.
C'est ça. Non, en fait, c'était à 5-3. Donc ça lui permet de mener 6-3. Et dans la foulée, il sert un ace. Et voilà, 2 points, retour gagnant et ace. Et un set partout. Emballer, c'est peser. Donc il y a cette façon chez lui de sortir toujours, de verrouiller toujours son meilleur tennis quand il en a le plus besoin. Donc ça, c'est assez fantastique. Maintenant, ce que disait Arnaud, je trouve, est quand même assez clé aussi. On peut se poser la question quand même de la concurrence. On peut se poser la question légitimement de la concurrence. Parce que quand Djokovic gagne un Masters 1000, ah, je vais être méchant, hein, mais pour moi, c'est à 60%, allez, 70% de ses capacités. Alors qu'il y a tout le top 10, tout le top 10 dans le Masters 1000
Et un
de
Grigor Dimitrov
Bercy.
flamboyant quand même cette
Et un
saison.
Grégoire maintenant, c'est qu'à mon avis, il y a un problème de, quand même de, alors je sais pas si c'est un problème de niveau, problème de complexe, j'en sais rien, mais il y a un problème. Le Novak Djokovic de cette semaine, s'il rencontre le Federer de, je dirais même de 2018, vous vous rappelez de la demi-finale fantastique entre Djokovic et Federer à Bercy en 2018, ça avait été un match de 3 heures, il y avait eu 7-6, 5-7, 7-6 pour Djokovic. Je peux vous dire que le Djokovic de 2018 sur cette demi-finale, il était bien supérieur à ce Djokovic-là, et le Federer de 2018 l'aurait battu, le Djokovic qu'on a vu cette semaine. Il l'aurait battu en 2-7. Je dis pas aisément, mais il l'aurait battu en 2-7.
T'es
Et
d'accord
je
avec
pense
ça,
que...
Arnaud?
Après, ça va dépendre, je pense, quand même des tournois. Et là, tu mets en avant un point important, c'est la place du Rolex Paris Masters dans le calendrier.
Sûr.
Forcément, on le sait, chaque année, c'est... Alors, soit c'est une super date, parce qu'il y a des enjeux incroyables, avec
Avec
la
le
place de
Masters.
numéro un mondial, avec le Masters. Et là, tu retrouves en fait les meilleurs dans les meilleures dispositions, le couteau entre les dents. Qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre. Soit les jeux sont faits un peu et finalement, bah, tu en as quand même quelques-uns et c'est très inconscient, encore une fois, mais tu n'as pas la même motivation parce que quand tu es déjà qualifié pour le Masters et que tu ne peux pas aller chercher ta place de numéro 1, même si c'est un Masters 1000, tu arrives sur les rotules parce que tu as beaucoup joué, c'est humain dans ta tête, c'est compliqué. On l'a vu, Sinner aujourd'hui. N'a pas pu jouer, n'a pas joué le lendemain en fait de son match, qu'il a terminé à 2h37 du matin.
C'est ça.
Et donc, à un moment, on peut aussi se mettre à leur place et comprendre. Moi, je me mets. Alors, il y a évidemment, chacun regarde ça à sa manière. Hein. Quand on est organisateur de tournoi, on a quand même bien les boules, évidemment, de voir un forfait de la part d'un joueur, qui plus est quatrième mondial et plutôt en forme en ce moment. Mais d'un autre côté, quand vous vous couchez à 5h du matin et que vous avez le Masters. Bah forcément, comme objectif de fin d'année, vous préférez ne pas vous péter physiquement et donc faire attention à arriver prêt sur ce grand rendez-vous plutôt que de retourner sur le terrain après avoir dormi 4 ou 5 heures en étant complètement rôti parce que vous avez enchaîné après une tournée asiatique forcément contraignante physiquement. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc le Rolex Paris Masters, c'est un petit peu ça aussi le sujet. Et quand on parle de saison, de gérer ces saisons, bah, on la gère beaucoup mieux à 36 ans qu'à 20 ans, ça c'est certain. Tous les jeunes qui débarquent jouent énormément. Alors après, il y en a d'autres qui continuent. Hein. Rublev continue et jouera toujours beaucoup, par exemple. Tsitsipas, il joue aussi beaucoup. C'est quand même un joueur qui. Et là, on peut se questionner. Là, on peut se questionner au bout d'un moment parce que est-ce qu'il vaut mieux pas faire du jus, donc enfin, de la fraîcheur, plutôt que de l'usure? Parce qu'au bout d'un moment, l'usure mentale, vous êtes obligé de la prendre. En fait, les années sont longues. C'est quand même une vie qui est merveilleuse, mais qui est quand même fatigante. Et quand vous jouez 25, 26 tournois par an, c'est beaucoup, parce que vous vous entraînez tout le temps, parce qu'il y a peu de coupures finalement. Surtout quand vous faites quart demi à chaque fois, on ne le mesure pas, mais quart demi, c'était vendredi, samedi, en course, tout le temps. Tu perds, t'enchaînes, la semaine suivante, tu dois être prêt lundi ou mardi. Ça te laisse à peine des fenêtres de 24-48 heures. En fait, j'essaie vraiment de faire la projection pour que les gens comprennent en fait à quel point l'enchaînement est infernal d'une certaine manière.
Et c'est sur ce point de programmation que Djokovic aussi est très malin, parce que lui, il choisit les événements auxquels il veut participer. Ça peut aussi expliquer le fait qu'il soit peut-être plus en condition que les autres au moment où il faut enfoncer le clou.
Ça l'explique et je voulais juste te dire, parce que évidemment, au départ, la stat que tu donnes de jeu 7 et mat, elle est impressionnante, évidemment, mais c'est probablement le joueur le plus sérieux depuis le début de sa carrière sur le
Bien
circuit depuis
sûr.
toujours. Et ça, dans la préparation globale, il y en a même certains qui ont tendance à le pointer du doigt en mettant en avant le fait que c'est too much, exagéré, mais à la fin, il met tout en place, tout en place. Pour son projet sportif depuis le début, mais à un point où tout est millimétré. Et je ne suis pas sûr Alors, je me trompe peut-être, mais je ne suis pas certain, même qu'un, on parlait de Federer, qu'un Nadal et que tous les autres l'aient fait de la même manière. Je suis même pas sûr.
Non, je pense que de ce point de vue-là, il est assez exceptionnel et il y a un truc qu'il faut qu'on dont il faut qu'on se rende compte, c'est que on dit beaucoup, oui, il n'a pas joué depuis un mois et demi. Donc depuis le match de Coupe Davis hein, avec la Serbie mi-septembre. C'est vrai. Mais Djokovic, il a insisté là-dessus en conférence de presse, ça fait 3-4 semaines avant le Rolex Paris Masters qui se prépare et qui met les bouchées doubles à l'entraînement pour arriver dans une condition qui lui permette de, malgré le manque de rythme, de performer tout de suite. Donc ça, c'est, il laisse rien au hasard. C'est évident. Maintenant, le paradoxe de ce que tu dis, Arnaud, c'est que tu disais, le Rolex Paris Masters, ça dépend, soit tout le monde a des objectifs élevés, soit c'est la fin de la saison, et ça. Oui, bah sur cette semaine, il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait deux places encore dans le Masters à attribuer. Ils l'ont été
Mais
finalement le vendredi soir, et il y avait la place de numéro 1 mondial entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Et là, c'est quasiment fini. Pourquoi? Parce que Djokovic a gagné le tournoi. Il a 1490 points d'avance à la race sur Carlos Alcaraz. Il lui suffira de gagner un match au Masters ou même qu'Alcaraz en perde un, c'est-à-dire en poule, pour qu'il ait la place de numéro 1 mondial. Donc, il y avait un vrai enjeu à Bercy là-dessus. Sauf
bien
que
sûr.
Alcaraz n'était pas dans les conditions pour le faire. Djokovic, oui.
Mais regarde après sur les enjeux, Hurkacz, il y avait l'enjeu justement d'être dans les 8. Tu as vu la nervosité d'Hurkacz sur son match justement qu'il perd contre
Dimitrov?
Dimitrov? Tu l'as
Ouais,
vu? Il est hyper nerveux.
dans le
Il était
début de
cramé
match.
aussi. Hein.
En début de match, ouais. En
Il
début de
était
match.
début du match. Ah, moi, j'ai
Physiquement,
trouvé
il
ça
était dur,
fou.
hein, dans le dur.
Ouais.
Hein. Ensuite,
J'ai trouvé ça fou.
je trouve que les deuxième et troisième sets, c'est quand même du très
Non,
très
mais
haut niveau.
attends.
Et
Ouais, non, mais il y
Dimitrov
a un
sort de
break
deux.
au deuxième.
Ouais.
Attends, même le deuxième, c'est border, il tient, il tient, il tient. Et hop, un break. Bam, pour aller chercher le deuxième. Mais globalement, l'enjeu, en fait, c'est aussi ça qui est.
Bien
Bah,
sûr,
c'est le
bien sûr.
sport, et c'est ça, c'est fou. Ça altère forcément ta manière de jouer. Et
C'est
c'est
vrai.
là où Djoko est plus fort que tous les autres. Dans ces moments intenses d'émotion, c'est
On
incroyable.
finit sur ce thème de Djokovic. Le voilà désormais avec 6 trophées cette année. C'est son meilleur total depuis 2016. Et donc 97 titres au compteur avant le Masters, qui arrive pour ponctuer la saison. Il est donc à 6 longueurs de Federer et 12 du record de Connors, c'est ses 109 titres. Donc à raison de 6 titres par an, il a de quoi effectivement dépasser cette marque incroyable d'ici 2025. Lui-même, il s'en cache pas, hein. Il dit bah voilà, pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas essayer de battre ce record? J'en ai 12 de moins et j'ai encore quelques belles années devant moi. Donc à l'écouter, pour lui, Federer a redoublé, c'est quasiment acté, hein, c'est plus qu'une question de temps. Et Connors n'a qu'à bien se tenir. Donc comme en Grand Chelem, ça vous semble aussi écrit d'avance? Écrit d'avance, j'irai pas jusque-là. Hein. J'irai pas jusque-là. Pour Federer, je pense effectivement que 6 titres, il y arrivera. Pour Connors, 12 titres, on peut estimer quand même que la concurrence devrait le gêner plus dans les 2-3 années à venir et qu'il ne tiendra pas forcément ce rythme de 6 titres par an.
J'ai déjà
Donc,
entendu cette phrase il y a quelques années.
voilà, c'est vrai. C'est ça. C'est toujours difficile. Mais ce qui est marrant dans cette stat de 6 titres par an, c'est qu'elle n'était plus effective depuis quelques années, justement. Parce que c'est la première fois qu'il regagne 6 titres depuis 2016, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc c'est depuis 6 ans, il me semble, ou un truc comme ça.
Ça tombe,
Voilà, 7 ans.
oui.
Donc c'est pas acté, c'est pas gravé dans le marbre. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne donne pas de signe de faiblesse, et notamment sur le plan physique. C'est cette stat que juste c'était Matt nous donnait au début de l'émission. 2h15
19.
par match en enchaînant tous les jours. C'est ça, il n'y a pas de jour de repos. C'est ça qui est fou. Ça montre que le type récupère encore à 36 ans d'une manière extraordinaire. Donc, à mon avis, le physique ne sera pas une limite. Le mental, je vois pas non plus. La seule limite qu'il peut y avoir pour lui, à mon avis, c'est si les autres encore progressent, progressent, progressent et l'empêchent de battre ce fameux record de Connors. Mais il est dans ses cordes pour moi. Il est
Ça va
dans ses
bien
cordes.
finir par arriver, cette concurrence qui se réveille. C'est jouable, ouais, c'est jouable. Moi, c'est assez rigolo, je ne sais pas, mais quand vous allez sur son palmarès, alors quand on dit qu'il a gagné 6 tournois cette année, à chaque fois, sur les 6 tournois en dehors du premier pour se mettre un peu en jambes, c'est la mise en bouche, c'est Adélaïde.
Oui,
Ensuite,
c'est
c'est trois grands chelems et des Masters 1000. C'est assez rigolo. Et il fait finale à Wim, hein, faut pas l'oublier. Et puis, je souris quand je vois sa saison 2015 et tous ses titres. C'est monstrueux. Non, mais c'est quand même vertigineux. Et donc, oui, tous ces records, bah, évidemment qu'il va vouloir essayer de les battre. Et il aurait tort, pardon, de s'en priver. Hein. Et
Mais
il va probablement y arriver. Ouais.
ce qui me frappe, c'est sa mentalité. En conf de presse, il a aussi dit, donc on le félicitait pour tous ses nombres, hein, 40 Masters 1000, 97 titres, on les égrenait 7 fois Bercy et tout ça. Et il répond, ah, c'est super, ouais, c'est super, mais c'est derrière moi.
C'est
Moi, je
super,
trouve
mais
ça
pour fou.
incroyable. Voilà, c'est presque ça. C'est super, mais c'est derrière moi. Je suis déjà sur le prochain objectif. Et le prochain objectif, c'est évidemment de gagner un match pour assurer la place de numéro mondial à Turin. Et surtout, de gagner mon septième titre au Masters. Et donc, d'être le recordman absolu devant Roger Federer, qui a 6 titres. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le mec gagne quelque chose de fantastique. Et 2 heures après, sa tête, il shift sur le prochain objectif. Il ne s'arrête jamais. Il n'est jamais rassasié. Et cette mentalité-là, il faut quand même la mettre en valeur parce qu'elle est hors norme. À 36 ans, après tout ce qu'il a gagné, franchement, vous comme moi, je pense qu'on serait satisfait et on dirait, bon, c'était une belle vie, on peut passer à autre chose.
Ah,
Non,
pas Seb, je crois pas. Je
pas
crois pas.
Seb.
Seb,
Non, non, bah,
tu
j'en
ne
demande
connais pas bien.
encore, ouais, effectivement.
Tu connais pas
Ouais.
bien Seb,
Parce
il est
que c'est vrai,
insatiable.
pourquoi s'arrêter? En plus, il a dit que les gens l'aimaient pas. Enfin, en tout cas, il a acté le fait que tout le monde était contre lui, ce qui est encore un peu plus un moteur pour lui,
Ouais, c'est fou ça
pour
aussi.
vouloir enquiquiner tout le monde, sans doute, pas par rapport à lui, hein,
Mais
c'est pas raison.
je me demande si les spectateurs de Bercy, qui quand même connaissent le tennis, ne jouent pas un peu avec ça. Ne se disent pas, tiens, on va le huer pour le piquer un peu pour voir comment il réagit. Parce que
Peut-être.
franchement, c'est incroyable. C'est à chaque
Peut-être.
fois qu'il est hué, hop, il réagit direct derrière et il break derrière. C'était incroyable contre Griegspoor notamment. C'était huitième de finale. 4-4, Griegspoor débreak dans le troisième set. Ça fait 4-4. Djokovic se fait huer pour une réaction, je crois, ou je sais plus pourquoi. Il fait comme ça, il attise encore le feu du public, il veut se faire huer et il rebreak blanc derrière. C'est quand même génial. Donc je pense qu'il y a un petit jeu quand même avec le public là-dessus.
Avant de partir pour le Masters, restons encore quelques instants sur le Rolex Paris Masters. Vous avez sans doute lu ou entendu que le tournoi était en passe de déménager de l'Accor Arena de Bercy pour la Défense Arena, en raison principale de la vétusté des capacités d'accueil du public et d'une programmation compliquée, quand même, il faut le dire, à cause de matchs à rallonge. Alors, à entendre la FFT, ce serait quasiment acté, même si les dirigeants de l'Accor Arena, Nicolas Dupeu en tête, n'ont pas dit leur dernier mot. Le directeur général de l'enceinte nous a accordé une interview pour affirmer qu'une proposition était sur la table pour répondre aux exigences de l'ATP, qui réclame plus de cours, hein, donc ça veut dire un central et trois cours annexes, plus spacieux. La FFT joue la montre dans les coulisses, met la pression quand même au public à travers les déclarations de Cédric Pioline, le directeur du tournoi, qui se sent à l'étroit et un peu démuni quand même par rapport aux problèmes rencontrés cette semaine. On rappelle, hein, une programmation chargée, tu parlais tout à l'heure de Sinner qui avait fini à pas d'heure, Arnaud. 6 matchs sur le court central, des sessions de jour qui sont étalées parfois jusqu'à 22 heures, une double billetterie qui a causé quand même un embouteillage monstre. Pour répondre à ces problèmes et aux exigences de l'ATP, Nicolas Dupeu, directeur général de l'Accor Arena, affirme que des solutions ont été proposées pour prolonger l'aventure à Bercy. Écoutons-le d'ailleurs à ce sujet.
Donc la proposition concrète, c'était de dire, un, le central qu'on connaît, ensuite un court numéro 1 situé sur la fontaine qui pouvait accueillir à peu près 1900 places aux normes, ensuite un court numéro 2 à proximité de la cinémathèque qui lui accueillait 800 personnes, et ensuite un court numéro 3 au niveau du skatepark qui lui accueillait à peu près 500 personnes. Ces trois
D'accord.
cours annexes étant aux normes, notamment sur les normes de hauteur, hein, puisque c'est celles qui font débat aujourd'hui. Hauteur, mais vous voyez aussi qu'en termes de nombre de spectateurs, on est sur un nombre de spectateurs important. Le seul point qui pourrait être discuté, c'est celui d'un cours numéro 1, où le souhait était plutôt d'un cours numéro 1 à 2500 personnes et où nous proposons 1900 personnes. Sinon, sur le reste, on est sur des infrastructures qui reçoivent dans des qualités optimale et réglementaire, trois cours plus le central, donc quatre cours, ce qui permet donc aussi d'augmenter le tableau de joueurs.
Bon, alors, tout ça mis bout à bout, à votre avis, on va commencer par Arnaud, est-ce que pour toi, il faut vraiment déménager?
Écoute, réponse nuancée, réponse de Normand. Non, en fait, moi, j'ai tendance à privilégier l'histoire. Tu sais, il y a eu ce même sujet en fait sur Roland-Garros à l'époque, il y a quelques années. Est-ce que l'on va vers... Alors, c'est un peu différent en termes de Grand Chelem, mais il y a forcément la comparaison aux autres Grand Chelem, de la même manière qu'il y a forcément la comparaison aux autres Masters 1000. Et donc, est-ce qu'on tend vers la course au gigantisme, au plus, 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 ou est-ce qu'on tend vers la qualité? Et à Roland, c'est ce qu'on a privilégié en pensant qu'on pouvait rester hyper quali à la porte d'Auteuil, donc en améliorant les conditions d'accueil, le service aux joueurs, justement en allant vers, en fluidifiant les flux, justement. Enfin, et il y a des possibilités. Là, est-ce qu'il y en a, en fait, à terme? C'est la question du cahier des charges, c'est la question, en fait, j'ai l'impression, qui revient depuis maintenant de nombreuses années, hein, sur le Rolex Paris Masters. C'est pas récent, c'est un sujet dont on parle quand même chaque année. Ce cours numéro un qui est trop petit, enfin, avec un plafond
Trop
trop
bas,
bas.
voilà. Oui, c'est ça.
Les joueurs en parlent chaque année aussi. Donc, à un moment, est-ce que ça peut être amélioré ou pas? Là, ce qui est sûr, c'est qu'on reproduit à chaque fois la même chose. Donc, on peut comprendre l'agacement, on peut comprendre la grogne de la part de l'ATP, probablement, de la part des joueurs aussi, bien évidemment, et une volonté peut-être de s'agrandir. Ça, on le comprend. Après, s'il y a des possibilités, il faut les étudier. Et voir si on privilégie, dans ce cas, avec la possibilité de s'agrandir, d'améliorer un peu les choses, et donc de rester et de privilégier l'histoire, parce que c'est en place depuis 86 maintenant, et donc ça commence à peser,
Eh oui,
je
38 ans
trouve.
de vie commune.
C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ou alors, c'est non pas balayer d'un revers de main, parce que l'histoire restera, mais aller vers autre chose de différent. Et avancer aussi. En fait, la décision, elle sera bonne dans les deux cas. On ne pourra pas rester dans ces conditions, me semble-t-il. Donc, ça voudra dire que de toute façon, il faudra trouver des améliorations possibles, la possibilité de s'agrandir, de faire autrement. Et si ce n'est pas le cas, j'imagine que de toute façon, là, à la Défense, c'est ça, Arena,
Oui, ce serait ça, oui.
Il y a de bonnes chances que ce soit un réceptif à la hauteur du cahier des charges demandé par l'ATP. Mais là, c'est le directeur du tournoi et la fédération qui sont seuls juges et qui pourront prendre cette décision. Nous, de notre côté, honnêtement, est-ce qu'on a assez d'éléments? Moi, pas en tout cas.
L'Accor Arena a donc fait une proposition d'extension. On parle d'un cours de 1900 places en cours numéro 2. Et des cours annexes de 800 et 500, qui restent quand même en deçà des autres Masters 1000, mais ça reste quand même une proposition. La mairie de Paris soutient ce projet. En face, la Défense Arena, peut proposer des infrastructures peut-être plus grandes, donc aussi des intérêts économiques plus conséquents. Voilà. Le cœur balance entre les deux. Maxime, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas changer de lieu?
Alors, l'argument se tient, hein. L'argument de Cédric Pioline se tient. Il a pris le casineur. On a rencontré Cédric Pioline dimanche, hein. Il s'est présenté devant les journalistes pour parler du tournoi, pour se féliciter des 170 000 billets vendus, de la qualité de jeu. Et il avait raison là-dessus. Vraiment un beau tournoi de ce point de vue-là.
Avec plus de
Mais
spectateurs que l'année dernière, il faut
voilà,
préciser.
5 000 de plus, hein, à peu près. C'est 5 000 billets de plus vendus. Il a raison. Par contre, il n'a pas éludé le gros problème de la semaine. Et le gros problème de la semaine, comme on en a parlé, c'est la programmation. Pourquoi il y a eu ce gros problème? C'est parce que, évidemment, on ne peut pas maîtriser la durée des matchs en tennis, ça c'est sûr. Mais surtout aussi parce que en session de jour, il y a 4 matchs programmés sur le court central en début de tournoi. L'idéal pour s'éviter ces décalages de programmation, ce serait qu'il n'y en ait que 3 matchs, c'est-à-dire à partir de 11h, 3 matchs qui s'enchaînent, puis ensuite 2 matchs en night session à partir de 19h30. Ça, c'est l'idéal. Le problème, c'est que, comme Cédric Pelline l'a dit, Déjà, c'est un challenge, un défi de faire tenir tous les matchs des premiers tours sur les trois courts en début de tournoi. Donc, si tu décharges le court central d'un match, forcément, ça a une répercussion sur les deux autres courts, court 1 et court 2, qui sont déjà surbookés en début de semaine. Donc déjà, c'est très difficile. Plus la semaine avance, moins les courts 1 et courts 2 sont surbookés, et plus, évidemment, ce programme du court central peut être déchargé. Donc le mercredi, à partir du mercredi jeudi, c'est vrai que là, il y aurait pu avoir que trois matchs en journée, avant la soirée, sur le court central. Mais quel est l'autre problème? On en a parlé. C'est que le court numéro 1 est pas aux normes exigées par les Masters 1000, hein, j'entends, c'est-à-dire la hauteur sous plafond, mais aussi en nombre de spectateurs. Et Cédric Pioli nous a donné une autre info qui nous manquait au moment d'évaluer ce forfait d'Yannick Sinner le jeudi,
C'est
c'est
qu'il ne
que,
voulait pas y venir.
voilà, il lui avait été proposé à un certain moment, si le match du court central durait trop longtemps avant lui, d'être déplacé sur le court numéro 1, et Yannick Sinner et son équipe ont refusé. Donc ça, il faut bien le mettre en avant. Les joueurs aussi n'aiment pas ces courts 1 et 2, qui sont avec le décalage, le contraste qu'il y a avec le court central. Bon, cela étant dit, je pense que le projet de l'Accor Arena mérite d'être écouté. Pourquoi? Parce qu'il y a trois nouveaux courts donc qui vont être construits. Ce serait sur le parc de Bercy, comme tu l'as dit, et que les courts actuels 1 et 2 seraient des courts d'entraînement. Donc il y a quand même une volonté d'élargir les possibilités, en tout cas d'alléger le programme du court central et d'alléger cette programmation qui a été mal vécue et à juste titre par les joueurs et par l'ATP. Donc il y a une vraie solution. Maintenant, le problème, c'est que ces cours-là, donc le nouveau cours numéro 1, le nouveau cours annexe qui aurait 1900 places contre les 2500 exigés au minimum par l'ATP pour les Masters 1000, et que ce serait aux normes d'un point de vue structurel, c'est-à-dire hauteur sous plafond, etc., mais pas aux normes pour la capacité et les billets vendus. Et on peut comprendre du point de vue de l'organisateur qu'il y ait une volonté de vendre encore plus de billets qu'ils ne le font actuellement.
Et c'est
Maintenant, je pense.
exigible qu'en 2025, donc
Voilà.
l'année prochaine, en plus, ces problèmes-là risquent de revenir aussi sur le tapis. Et donc de
Voilà.
remettre un coup de pression. Mais d'ici là, on aura sans doute la décision finale.
Maintenant, moi, je suis très attaché à l'histoire et je trouve qu'un tournoi aussi se crée un prestige par sa constance, sa persistance dans les lieux qui l'ont rendu célèbre. On se souvient tous du sacre de Joe Wilfried Tsonga en 2008 avec un Bercy surchauffé. On se souvient tous du seul titre de Roger Federer à Bercy en 2011. C'est des moments qui ne se recréent pas comme ça, et je pense qui sont intimement liés à la salle.
Les titres de Djokovic à Bercy, ça t'a pas marqué, par
Alors,
contre.
les titres de Djokovic, il y en a trop.
Ah voilà, c'est
Non,
ça. Bon.
non, non, bien
Bravo.
sûr, je ne méprise pas Djokovic, c'est pas ça que tu vas pas me faire dire ce que j'ai pas dit quand
J'ai pas dit que tu me méprisais, j'ai dit que tu n'avais
même.
pas retenu les titres qu'il avait gagnés. Bon, en tout cas, toujours est-il que la décision de la FFT de bouger ou non sera prise à la fin de l'année. Et voilà, c'est vrai que Pioline l'a rappelé sur Eurosport et aux autres médias présents au World Experience Master. Nous verrons donc la décision qui sera prise. Allez, pour finir, direction les Masters de fin de saison pour finir. Donc à Cancun, Iga Świątek a enlevé le Masters féminin dans la nuit de lundi à mardi et la place de numéro mondial pour de bon cette saison, en terminant devant Aryna Sabalenka. Dès dimanche, les hommes seront à Turin pour en découdre à leur tour, tournoi indoor que vous pourrez suivre d'ailleurs sur les antennes d'Eurosport du 12 au 19 novembre. Et place à l'œil de Dieu qui a voulu revenir sur l'un des grands absents de cette grand-messe de fin de saison.
Oui, tout à fait. Alors, j'aurais bien aimé aussi parler de Świątek qui a quand même balayé toutes ses adversaires. Voilà, c'était la petite parenthèse. Incroyable Masters, quand même, dont on n'a pas beaucoup parlé pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas, une Świątek phénoménale sur cette fin de saison. Le grand absent de ce Masters, pour moi, c'est Casper Ruud. Casper Ruud, en fait, quand on regarde ses trois dernières saisons, finalement, eh bien, il avait gagné 5 titres en 2021. Il en a gagné 3 en 2022. Il en a gagné 1 en 2023. En 2022, il y a eu quelques belles finales aussi, hein, puisqu'il y a eu Miami, le Masters, l'US et Roland. Donc, des énormes finales malgré tout. Une saison quand même pleine avec ces trois titres en plus. Et là, il y a eu deux finales en plus, c'est vrai, cette année, mais on a senti quand même un Casper Ruud en difficulté cette année, en dehors de cette finale à Roland-Garros, hein, qui sauve un petit peu les meubles, on peut le dire. Mais globalement, par rapport aux deux saisons précédentes, c'est vraiment une saison en demi-teinte, voire, j'imagine, dans son esprit, une saison difficile, délicate, dont il va falloir tirer des leçons probablement. On avait aussi parlé de ses exhibitions en fin d'année dernière où ça ne lui avait pas permis justement de pouvoir faire le plein, recharger les batteries, retravailler pour repartir avant. Il y a peut-être des. Encore une fois, attention, il est avec son père, un staff compétent. Mais si on devait quand même en sortir un aujourd'hui, alors qu'en plus l'année dernière il avait fait finale au Masters, hein, j'insiste encore là-dessus, eh bien aujourd'hui c'est probablement le grand absent en effet.
C'est le grand absent. Maintenant, sa finale à Roland-Garros, pour moi, c'est un trompe-l'œil, hein, sur sa saison. Il faut le féliciter d'y être parvenu. Je trouve que, je vais pas être méchant, mais son tableau était plutôt sympathique pour y arriver sur cette finale de Roland-Garros. Mais si on met cette finale de côté, c'est un vrai déclassement pour moi, cette saison de Casper Ruud. Un déclassement qu'il a lui-même en partie provoqué. En effet, ses exhibitions de l'hiver dernier n'étaient pas nécessaires. Bon, c'était une occasion d'être avec Rafael Nadal, d'avoir des certains gains financiers, évidemment, c'est sûr. C'est un choix, c'est son choix. Mais je pense qu'il s'est mis en difficulté, même s'il a fait sa préparation physique, on va dire, un peu plus tard. Hein. C'était en février qu'il a fait un gros bloc de préparation physique pour se relancer. Je pense que oui, il s'est mis un peu tout seul dans l'embarras, mais je pense aussi que Casper Ruud est un joueur très solide, il sait tout faire, mais tout faire à un certain niveau, et qu'il y a des jeunes joueurs qui ont plus de potentiel, qui ont plus de marge de progression que lui, et que si lui baisse un tout petit peu, c'est normal qu'il se fasse, entre guillemets, un peu manger par ces nouveaux venus qui ont les dents longues et qui ont certainement plus d'armes dans leur jeu pour être plus performants tout au long de l'année. Casper Ruud est un formidable joueur de terre battue. C'est un joueur de dur qui peut être très intéressant quand il est très en forme, mais quand il est un petit peu moins en forme, il prend moins la balle tôt, il est plus vite dépassé, Et il a moins d'atouts. Or, 60% de la saison, c'est sur dur. Donc, ça se voit très, très, très vite quand il perd un peu en performance. Donc, je trouve que malheureusement pour lui, cette absence au Masters, elle est logique. Elle est logique. Ce qui est un peu dur pour lui, c'est qu'il sort du top 10 la dernière semaine. Hein. C'est cette semaine qui sort du top 10. Il a été toute l'année dans le top 10. Mais. Ça, j'ai envie de dire, c'est les aléas du classement, mais ça reflète bien sa saison qui est décevante d'un côté, certainement, mais qui est aussi logique par rapport, je trouve, aux forces en présence. Moi, les 8 joueurs qui sont qualifiés cette année pour le Masters l'ont mérité et largement.
Alors, on précise qu'il est 7e mondial au classement technique pour le moment. Mais qu'à la race, il n'est effectivement que 11e. Absent, on pourrait aussi ajouter le Polonais Hubert Hurkacz, hein, ce qui augmente le contingent européen en masse aux premières places mondiales. Et à bien regarder la liste des participants, il n'y a que des Européens au Master cette année. Alors, c'est la 4e fois que ça se passe sur les 6 dernières éditions. Est-ce que pour vous, ça reflète vraiment ce qui s'est passé cette saison?
Attention, hein, attention Sébastien. Non, mais il y a quelques Américains qui ne sont pas très loin quand même. Donc, oui, il y a des Européens. Oui, pour l'instant, ils tiennent le bon bout. Mais honnêtement, on pourrait se retrouver avec 4 Américains très rapidement, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, au Masters sur 8.
Ouais, parce que ça pousse hein, derrière. Il y a Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe aussi. Une belle génération américaine, mais encore
exactement.
Trop
Ils
pas
sont
constante,
juste
peut-être.
derrière. Mais ils sont juste derrière. Et Shelton, laissons-lui un petit peu plus de temps. Il n'a qu'une année hein, de circuit. Il est combien là? 12 ou 13? Donc avec une année de plus, il y a quand même de bonnes chances qu'il puisse intégrer le top 10 et peut-être se qualifier l'année prochaine. On verra, évidemment. Mais non, donc ce n'est pas quelque chose d'installé là. Je ne crois pas. Au contraire, je pense que ça va même bouger. Il y a quand même de bonnes chances, enfin, à mon sens.
Oui, c'est
Sans
sûr.
oublier Alex de Minaur également, qui était 12e à la race.
Exactement. Et puis, on peut espérer, par exemple, qu'un Félix Auger-Aliassime l'année prochaine réagisse par rapport à cette année qui a été difficile pour lui. Je pense que son classement actuel ne reflète pas le niveau qu'il peut atteindre, qu'il doit atteindre, j'ai envie de dire.
29e à la race, hein. Lui est
Voilà,
complètement
29e.
très très
Et
loin.
oui, il a complètement raté sa saison, on peut le dire. Il a raté sa saison. Mais c'est pas, à mon avis, son niveau moyen, ça referait le passin. Il y a une semaine, ou une semaine avant le Masters, ils étaient quatre Américains dans le top 15. Donc là, ils sont un tout petit peu moins, parce que Shelton a reculé de deux places, il est 17e, je crois, maintenant. Enfin, bref. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que la densité américaine est vraiment de retour. Et si moi, je dois en citer deux, qui, à mon avis, seront très régulièrement, ou ont le potentiel pour être très régulièrement au Masters dans les années à venir, c'est évidemment Shelton et Korda. Sébastien Korda
Bien sûr, Korda qui va pousser, ouais, ça c'est
va
certain.
pousser.
Il pousse super bien.
Je parlais de saison en trompe-l'œil pour Casper Ruud, mais c'est aussi une saison en trompe-l'œil, mais inversée, j'ai envie de dire, pour Korda, parce qu'il avait commencé très fort avec une finale à Adélaïde et un quart de finale à l'Open d'Australie. Il avait tout pour bien enchaîner, il s'est blessé au poignet et ça lui a mis foutu en l'air 4 mois de l'année, 4 ou 5 mois de l'année, et il est revenu très fort en fin de saison. Donc je pense que s'il avait pu disputer une saison complète, il aurait été aussi très à la lutte pour ce Masters-là. Donc je pense que non, c'est pas gravé dans le marbre cette domination européenne. Tu m'aurais posé la question il y a 5 ou 10 ans, je t'aurais dit oui, vraiment. Il y avait un gros décalage entre les Européens et les Américains et le reste du monde, j'ai envie de dire. À mon avis, ce sera plus le cas dans les années à venir.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Je rappelle que le Masters de Turin sera donc à suivre sur les antennes et applications Eurosport à partir de dimanche. Le tirage au sort des groupes aura lieu, lui, jeudi. Et bien merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Nous avons aussi une pensée amicale pour notre collègue Laurent Vergne qui se repose après cette année sportive très
on
intense.
Fort.
Ouais, on l'embrasse fort.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine où on aura l'occasion de revenir sur ce Masters en long, en large et en travers. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à aller taper la balle. À bientôt.
Salut.
Salut à tous.